Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Diana, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Et aujourd'hui, nous recevons Emily Tonne, une journaliste et aussi autrice. Autrice donc d'un superbe roman, Des rêves d'or et d'acier, sorti l'an dernier chez l'excellente maison d'édition Hors d'atteinte. Dans ce roman, Emily raconte l'histoire de son père, Liem, qui est donc vietnamien, issu d'une minorité musulmane, et entremêlée de ses souvenirs d'enfance, d'adolescence avec sa famille. On y lit donc sa vie entre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et finalement la France. On y apprend aussi beaucoup d'une histoire coloniale peu connue, des guerres, de déracinement, la perte de proches. Pas mal de choses finalement assez qu'on peut taxer de dramatiques, mais qui sont très bien rendues dans le livre. Bonjour et bienvenue Emily, merci.
Merci Nadia de me recevoir.
Comme à chaque fois, les références des livres, des auteurs dont on va parler, notamment dans la deuxième partie du podcast, seront en description de l'épisode et bien sûr sur notre site avec les photos. Et pour le moment, donc place à Emily dans Jamais sans mon livre, c'est parti. Donc comme je le disais, on est ravis de l'avoir dans ce podcast. J'ai mis du temps à lire ton roman, je le répète, pas parce qu'il est mauvais, loin de là, bien au contraire, mais parce que j'ai une concentration éclatée en ce moment et que donc j'ai mis du temps à lire. Mais en tout cas, j'étais ravie de parcourir cette histoire. Donc on va parler du roman, de comment tu en es arrivée à écrire, ton processus d'écriture, et puis par la suite on parlera de ton rapport au livre et à la lecture. Donc la première question, comme à chaque fois, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me travaille, est-ce qu'on peut parler de ton déclic pour l'écriture? Je le disais, t'es journaliste, donc ça fait partie de ton quotidien, de ton travail, mais finalement c'est pas la même écriture quand on se lance dans la littérature. Comment tu t'es dit, comment t'as eu envie et le besoin d'écrire autrement, autre chose? Alors est-ce que c'est de la fiction ou pas? Tu vas nous le dire, puisque c'est quand même l'histoire réelle de ton père. Mais en tout cas, voilà, comment tu en es venue à écrire la littérature?
À vrai dire, j'ai toujours écrit. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré depuis que je suis toute petite. Avant même de savoir que je voulais un jour devenir journaliste, puisque c'était pas vraiment un rêve atteignable pour moi à l'époque. Et j'ai passé les 10 dernières années de ma vie comme journaliste à écrire les histoires des autres. C'était pour moi quelque chose qui a été un processus très naturel au final de les interroger, de raconter leurs histoires, de rapporter leurs récits, et je me rendais pas compte que j'avais moi-même une histoire à raconter dans ma propre famille quelque part. Et dans ce processus d'écriture journalistique, on est évidemment toujours un peu plus froid, même si je pense que j'ai jamais eu une écriture qui était totalement froide, parce que en tant que journaliste, je cherchais à capter l'humain quelque part de chacune des personnes que j'interviewais. Par ailleurs, j'étais spécialisée en témoignages, en rubrique témoignages quand j'étais à l'Express, puis ensuite en société. Donc c'est évidemment les histoires des gens, les histoires qui les touchent au quotidien. Et je pense que je ne me rendais pas compte du coup du potentiel de l'histoire de mon propre père. Je pense que c'est souvent comme ça en fait, quand on grandit avec quelqu'un, son récit qui est constitutif de lui-même et qui est constitutif de moi de fait, c'est quelque chose qui nous paraît naturel, normal. On se dit pas que son père a fait des choses incroyables, on se dit c'est son père et c'est lui qui se lève le matin, qui prépare à manger, qui nous dispute, qui surveille les devoirs et c'est tout quoi. Et puis s'il est passé par, s'il est né au Vietnam, c'est comme ça, et s'il est arrivé en France un jour, c'est comme ça. Et ça me paraissait pas fou quelque part. Et finalement, c'est à travers les yeux de mon mari, qui était journaliste à l'époque, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à raconter. C'est lui qui m'a dit « Là, tu tiens quelque chose avec l'histoire de ton père », et je m'en rendais pas compte. Et c'est ça qui était assez fou, en fait, à l'époque. Mais face à ce constat, je me suis dit « Ouais, peut-être. Peut-être que je tiens quelque chose. » Et je me suis dit « Ok, passons à autre chose. Passons à une écriture qui sera un peu plus littéraire, qui n'est pas de la fiction, du coup, mais qui est une approche plus littéraire que le journalisme normal. Et ça a été un plaisir incroyable de découvrir ça.
Oui, j'imagine. Tu disais justement que donc, ton père racontait quand même des histoires fréquemment, enfin, tout au long de ton enfance, adolescence. Les quelques Les quelques auteurs que j'ai reçus qui racontaient aussi des récits familiaux, alors je ne vais pas généraliser ni essentialiser, mais souvent on me dit que c'est difficile de faire parler, notamment les papas, qui sont souvent plus taiseux que les mamans, que c'est difficile d'avoir accès à son histoire familiale, etc. Il semble que pour toi, en tout cas dans le cas de ton père, naturellement, il a raconté, peut-être pas tout, mais pas mal de choses à ta sœur et toi quand vous étiez plus jeunes. Est-ce que tu avais déjà, avant même de penser à ce projet, tu avais déjà eu une idée globale de ce qu'avait été sa vie et de ce que tu allais raconter dans ton roman? Ou est-ce que tu as dû quand même creuser pour... Parce qu'il y avait quand même des silences, en fait, que tu as dû surmonter.
J'avais une idée très générale, mais en fait, surtout, mon père, en fait, parle énormément. Et il raconte énormément ses histoires. Il en a comme ça une dizaine qui raconte régulièrement autour de lui, à des amis, à la famille. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est les meilleures histoires de quand il était jeune, quoi. Et en fait, j'avais une idée de ces histoires, mais pas de ce qu'il y avait, de ce qui se passait entre ces histoires, quelque part. Et il fallait raccrocher les wagons. Et effectivement, mon père parle beaucoup. C'est d'autant plus rare chez un homme. C'est d'autant plus rare chez un homme asiatique. Parce qu'il y a peu de pères asiatiques qui racontent leurs histoires. Ça, j'ai pu en discuter avec d'autres. Et vraiment, mon père est un peu une exception là-dessus. Mais ça n'a pas été si facile de combler les trous parce qu'il fallait réécrire un récit qui était cohérent. Et que c'est pas son fort. Enfin, on peut pas demander à quelqu'un de nous dire à partir du moment où il est né jusqu'au moment où en fait on est arrivé à ce qu'il a fait exactement dans sa vie avec précision et avec une chronologie à peu près correcte. Au contraire, avec lui, ça partait dans tous les sens et ça a été un peu difficile de canaliser ça. Mais on a appris ensemble à le faire. Et je suis super contente de savoir ce qu'il y avait entre tous les trous en fait. Il y avait plein de choses qu'il m'avait pas racontées. Peut-être parce qu'elles étaient trop dures. Peut-être parce que j'ai pas posé la question avant. Mais aujourd'hui, c'est précieux et c'est vraiment un cadeau aussi que j'offre au reste de ma famille, à mes cousins et cousines qui, eux, n'ont pas forcément des parents qui parlent et qui n'ont pas osé aussi poser les questions. Mais c'est aussi leur histoire, en fait. Ils sont aussi inclus dans ce récit.
Alors, comment ça s'est passé, justement? Tu dis que ton père raconte ces quelques histoires comme ça, qui veut bien l'entendre, ou ne veut pas l'entendre, d'ailleurs. Mais du coup, pour avoir vraiment le contenu de ce qu'allait être ton livre, est-ce que tu as donné rendez-vous, tu l'as enregistré, tu l'as fait plus sournoisement sans lui dire que t'as enregistré? Comment on obtient, finalement, un récit quand on veut raconter la vie de quelqu'un?
Ouais, bah c'est exactement ça. En fait, je lui ai dit un jour, écoute, j'ai envie d'écrire ton histoire. Et mon père, très humble, a dit « Évidemment, mon histoire est trop bien. » Donc...
Il faut en avoir conscience, c'est bien.
Je lui ai carrément dit « Je quitte mon travail, on va faire ça. » Il était d'accord.
Ok.
Ce qu'on a fait. Et en fait, je lui ai donné rendez-vous. Et il a fait que le reporter, ce rendez-vous. Il l'a reporté je ne sais pas combien de fois. J'avais mon magnéto, etc. Et je pense que ça avait un côté hyper intimidant. Et d'ailleurs, le jour où il a finalement accepté de parler pour la première fois, et que je lui ai posé mes questions, de manière très linéaire aussi, comme j'avais l'habitude de le faire en tant que journaliste. Il partait dans tous les sens et il a écourté au maximum. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne approche avec lui. De toute façon, c'est... je pense que c'est pas neutre non plus, c'est pas comme quand on interroge un inconnu ou une inconnue. Là, il y avait d'autres choses. Il y avait beaucoup de gêne de mon côté et de son côté, en fait. Et c'est très bizarre parce qu'on est très proches. Je suis vraiment une fille à papa, je m'en cache pas. Et là, pour la première fois, en fait, j'ai senti que il n'était pas forcément si à l'aise face à cette démarche-là.
C'était trop formel aussi.
Peut-être trop formel. Et le magnéto, je pense, a été un parasite, en fait. Vraiment. Autant quand on s'appelait sur FaceTime et qu'en fait il voyait pas que j'enregistrais, ça allait à peu près. Autant quand on était en face à face, non, ça marchait pas trop, quoi. Ça marchait pas trop. Au final, il a fini par être un peu plus volontaire à partir du moment où j'ai rangé ce magnéto qui faisait un peu étranger en fait avec nous. C'était comme une personne en trop en fait qui était là. Et là, ça a été mieux, en fait. Je pense que quand il a oublié qu'il racontait juste à sa fille son histoire, ça a été beaucoup plus simple.
Du coup, si tu l'enregistrais pas, comment tu absorbais son récit, puis tu prenais des notes en même temps ou par la suite. Comment tu fais pour tout retenir, même si c'est aussi ton histoire, donc forcément tu as un intérêt particulier, mais comment on travaille ce contenu qu'on reçoit oralement pour le retranscrire après à l'écrit comme tu l'as fait?
Alors, quand on était sur FaceTime, j'ai beaucoup enregistré à son insu, en lui disant tout à la fin, ce qui me permettait de garder une trace. Mais en fait, une des règles qu'on apprend quand on est journaliste, c'est que à la fin d'une interview, les idées les plus importantes, elles restent dans ta tête. T'as pas besoin de les avoir mot pour mot quelque part. Et effectivement, le plus important restait. Et ce que je faisais, c'est que j'écrivais directement après, en fait. Et j'ai pas fait ce truc où j'ai enregistré mon père pendant 3 mois, puis j'ai tout déroulé dans une histoire. Au contraire, je pense que je l'ai enregistré pendant un an et demi, et qu'en fait, à chaque fois qu'on avait terminé de parler, j'écrivais mon chapitre. Mmh. Et après, peut-être qu'ils ont changé de sens, etc.
Oui,
mais
l'essentiel,
mais en tout cas, j'avais l'essentiel, j'avais ce qui était important à ce moment-là, et ça me permettait de garder aussi cette spontanéité en fait dans ces émotions, parce que en fait, au-delà des infos, il y avait surtout beaucoup d'émotions à écrire, et c'est là qu'elles étaient les infos les plus importantes au final.
Est-ce que passer par ce travail, donc tu disais, c'est pas de la fiction, comme on l'a dit, ouais. C'est un roman, mais malgré tout, la trame, elle reste basée sur l'expérience de ton père. Est-ce que ce processus-là et cette expérience-là t'a donné envie ou peut-être confiance en toi pour justement te lancer dans l'écriture purement de fiction? Ou est-ce que tu vas en rester sur le témoignage ou l'histoire des gens qui vont exister? Est-ce que c'est genre comme on appelle ça, une passerelle, en fait, vers la vraie fiction?
Alors, je pense que justement, le fait que ce soit pas de la fiction, ça a été une béquille pour moi.
Ouais.
Parce que quand c'était compliqué, ou quand même émotionnellement, c'était compliqué d'écrire, je me retranchais derrière la recherche documentaire. Et là, en plus, des fois, je me rendais compte aussi que j'essayais de me tromper moi-même, parce que, en fait, je me lance dans des grands trucs historiques, à chercher dans des archives pas possibles, et en écrire trop là-dessus, alors que c'était pas le cœur de mon livre. Le cœur de mon livre, c'est l'histoire de mon père. Mais aussi parce que je pense que c'est une sorte de façon d'échapper à ce côté trop dur émotionnellement,
ouais.
En fait.
Ouais.
Et je pense que ça a été super de faire ça de cette façon. Pour mon père, parce que en fait, du coup, j'ai aussi un éclairage aujourd'hui de ce qui s'est vraiment passé dans sa vie, parce que je peux m'accrocher aux faits historiques, mais pour l'avenir, en tout cas pour l'idée de roman que j'ai en tête, là cette fois, je veux vraiment écrire de la fiction, même s'il y a de la recherche autour, ça sera de la fiction.
Ok, on a hâte de lire ça. Pour en revenir à ton écriture, en le lisant, moi, j'avais l'impression, enfin, il y avait un style très cinématographique dans les descriptions de paysages, enfin des décors où a priori tu n'y étais pas puisque c'était l'enfance de ton père par exemple, et je trouvais que ça, justement, ça apportait quelque chose d'assez je vais pas dire inédit, mais en tout cas nouveau pour moi, parce que je lis peu d'auteurs justement issus du continent asiatique et en tout cas qui racontent ces histoires là Et j'avais vraiment l'impression à certains moments d'avoir des scènes de films. Alors, ça fait très cliché aussi, et je pense que c'est aussi le fait d'être un peu extérieur à cette culture, et qu'il y a énormément d'œuvres, on va dire, de pop culture qui existent, notamment des films sur la guerre du Vietnam, etc. Donc, on a forcément ces images-là qui parasitent aussi parfois un peu la lecture et l'expérience du roman. Comment toi, t'as pensé justement l'écriture? Puisque t'as quand même visité le Vietnam, et tu le racontes aussi dans certains passages, mais... forcément, plusieurs années après, comment tu t'es lancée dans la description de ces endroits que tu n'as pas connus à ce moment-là?
C'était hyper important pour moi que ce soit visuel, en fait, que l'écriture, elle soit visuelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ouvre le livre sur une scène de télévision. Parce que le Vietnam, je l'ai connu d'abord à la télé avant de le connaître pour de vrai. Je l'ai connu seulement à 19 ou 20 ans. Et pour avoir ces images, en fait... C'est un mélange de ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire que j'ai passé un an au Cambodge quand j'avais 19-20 ans et je faisais des allers-retours au Vietnam de manière régulière. Et du coup, ça m'a donné quand même un vrai aperçu et des villes et des campagnes qui sont là-bas. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires. Et merci quand même à certains archivistes, parce qu'en fait, on a des vidéos,
ouais.
Des photos de ces moments-là. Mais ce qui a été compliqué, en revanche, ça a été de trouver des images des camps de réfugiés où était mon père. Et là, pour le coup, les recherches ont vraiment patiné pendant un moment parce que, en fait, ben, les gens gardent pas forcément des photos des camps de réfugiés où ils vont.
Forcément.
Surtout quand, en fait, c'est clairement quatre bâtons avec un toit en plastique au milieu de la jungle, quoi. Ils ont pas de téléphone à ce moment-là qui prennent des photos. Mmh. Ils ont pas d'appareil photo. Enfin, bon, voilà. Et j'en ai trouvé quand même. Et ça, je pense que ça m'a vraiment permis de d'écrire. Toutes ces choses-là, et après je les faisais valider par mon père surtout. C'est ça en fait.
Ouais.
C'est que en fait, quand j'avais un doute sur ce que visuellement, ce qui se ressortait visuellement de ce que j'avais écrit, je lui faisais lire ces quelques pages et il me disait oui, c'était comme ça ou non, c'était pas comme ça. Et quand il me disait c'est bon, je m'y retrouve, c'est là, je le revois ce que j'ai vécu, là je me disais c'est bon, c'est gagné.
Ouais, ça doit être fou comme, sensation quand finalement la personne valide
complètement
ce que t'as imaginé.
Clairement, clairement. Et par contre, ce qui était dur, c'était de se défaire des images d'Hollywood, quoi,
voilà,
des guerres du Vietnam. Sachant que mon père n'a pas connu la guerre du Vietnam dans les campagnes. Oui. Il était en ville, il n'a pas du tout vu ça. Donc, en fait, se détacher de Rambo et de Full Metal Jacket, c'était mon problème, ça, par contre.
Bah ouais, mais c'est ça, c'est qu'on a été quand même nourris de ces images-là, qui sont ce qu'elles sont, mais... Du coup, pour décrire la réalité, ça doit être un peu plus compliqué. Il y a une phrase qui est présente dans le livre et que tu répètes, une phrase que ton père vous répétait d'ailleurs à ta sœur et toi, quand on a tout perdu plusieurs fois, on n'a plus peur de se lancer, qui est une phrase hyper forte quand on a lu en plus le livre et qu'on a découvert la vie qu'a eu ton père. Donc il arrivait en France à 18 ans et finalement il avait déjà vécu 1 million de vies avant en Asie. Dans tous ces pays dont on a parlé, c'est un peu ce qu'on peut, il y a un peu ce qu'on peut qualifier de héros anonymes, comme on le lit parfois. Les hommes comme lui sont souvent absents de la littérature, qu'ils soient issus du continent asiatique ou de l'Afrique. On en fait rarement des héros, justement, des protagonistes. C'était aussi ça le propos, peut-être le second propos de ta démarche, au-delà de raconter l'histoire de ton père et l'histoire de ta famille. C'était peut-être aussi, c'est moi qui.
C'est très bien vu d'ailleurs en fait. Je pense que je le dis aussi dans le livre, mais peut-être de manière un peu plus détournée. Mais mon père en fait s'est toujours considéré comme quelqu'un qui avait fait des trucs fous et formidables. Et il le disait aux gens et personne l'entendait. Et je savais qu'il était très frustré et très en colère en fait de ça. Et je le voyais et jusqu'à la sortie du livre, je le voyais. Et quelque part, en fait, d'avoir en plus entendu, d'avoir pu relier les wagons ensemble et de me rendre compte, en fait, que de la grande image de qu'a été sa vie, effectivement, mon père a fait des trucs fous et les gens ne l'entendaient pas. Et il le criait au monde et je pense que c'était un peu... Enfin, je pense que c'est lié aussi à son déclassement. Il a cette sensation, du coup, de ne pas être considéré à sa juste valeur parce qu'il a été ouvrier toute sa vie et qu'on le voit comme un immigré ouvrier que parmi d'autres, en fait. Et en fait, je pense que je voulais quelque part lui rendre ça. Je voulais que les gens lisent et se disent, justement, comme tu t'es dit, toi, Nadia, c'est un héros anonyme, quoi. Mmh. Et personne ne parle de lui. Donc, j'espère que j'ai un peu réussi. En tout cas, ça a l'air d'être le cas.
Moi, je trouve que oui. Comment a été sa réaction, du coup, à lui, puis peut-être aux autres membres de ta famille, quand ils ont eu le livre entre les mains? Est-ce qu'il l'a lu tout de suite? Est-ce qu'il a dit, ouais, je vais me mettre de côté, on verra après?
Mon père, je lui ai filé le manuscrit, quand je l'ai terminé, donc quand il était corrigé, mis en page, tout était bouclé. C'était en avril 2022. J'ai les premiers exemplaires, un mois plus tard, je lui donne, et en fait, le livre traîne. Il traîne, et ni lui, ni ma mère, en fait, y touchent, jusqu'à la sortie. Et la sortie a eu lieu beaucoup plus tard, du coup, en septembre. Et je pense qu'il a eu peur, en fait, de manière totalement inattendue. Il me dit, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de le lire, je sais, c'est mon histoire. Je sais ce qu'il raconte, le livre, c'est mon histoire. Alors que j'avais mis plein de petits clins d'œil pour lui, dedans. Et j'ai eu vraiment la surprise de voir, du coup, que, il était plutôt apeuré face à l'objet, quoi. Mais je pense que c'est ce qui arrivait après, qui lui faisait peur surtout. Que d'autres personnes puissent le découvrir, et en particulier les gens autour de lui, les gens de la famille aussi, que j'ai inclus dans le récit. Et au final, l'accueil a été super. Mon père adorait le livre, il en était très ému. Ma mère, ma mère aussi, elle t'arrive pas de louange dessus, même si en fait, effectivement, je parle d'elle aussi dedans et j'avais peur un peu de sa réaction.
Oui, parce qu'il se dévoile presque malgré ouais. eux un peu dans ton livre du coup.
Ouais, et j'avais demandé validation, ils l'ont pas lu avant, donc après je me suis dit bon, maintenant advienne que pourra. Voilà. Et ce qui me faisait peur aussi, c'était la réaction du coup de mes cousins et cousines à qui cette histoire appartient aussi. Mm-hmm. Et j'ai un de mes cousins qui l'a lu, mon cousin Hamza, et qui m'a dit que c'était un vrai cadeau pour la famille et qui aimerait le faire traduire pour la famille.
C'est chouette. Bah oui.
Qui est aux États-Unis, donc ce serait bien, mais bon, c'est quasiment impossible. Peut-être avec une intelligence artificielle.
Ouais.
Mais voilà, quoi. Non, c'était super. Ouais, super bon accueil quand même du côté de la famille.
Bah, très bien, et c'est mérité. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de projet d'écriture, de deuxième roman. Alors, on ne va pas te demander de quoi il s'agit, etc. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu abordes l'écriture d'un deuxième livre ? C'est toujours, j'imagine, compliqué. On a moins de trucs spontanés qu'on avait au début. Comment tu l'abordes, toi ?
Quand j'ai terminé Des rêves d'or et d'acier, j'étais très impatiente de reprendre l'écriture. Peut-être un peu trop impatiente, en fait. J'avais pas encore digéré tout le process, mais je voulais pas attendre que le nouveau livre sorte. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est simplement parce qu'une fois qu'il est sorti, après, on est à nouveau submergé, à nouveau à l'intérieur de ce livre. Et depuis, c'est un projet que j'ai mis un peu de côté. Aussi, entre-temps, en fait, j'ai pris un nouveau boulot à plein temps et...
Forcément, on a moins de temps.
Voilà.
Voilà.
Et maintenant, j'attends un bébé, donc je vais avoir encore moins de temps.
C'est pas pour tout de suite, donc.
Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, je suis très impatiente. Et je suis très impatiente, cette fois, de parler d'un côté un peu plus féminin. Okay. Ça sera toujours sur le thème et des mémoires et des transmissions familiales. Mais j'avais envie de parler un peu plus de femmes, cette fois.
Est-ce qu'on reste toujours au niveau de l'Asie ou ça sera pas du tout
Pas du tout.
Ok, bon, voilà, c'est noté, on sait maintenant et on attend donc l'écriture, on va pas dire la sortie, on va dire l'écriture. J'aimerais maintenant que, si possible, que tu nous lises un petit passage de ton roman, histoire de donner envie aux gens, si c'est pas déjà le cas. Est-ce que tu peux... Du coup, je t'ai demandé de choisir toi-même, comme ça... Voilà, c'est toi qui es maîtresse du texte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où il se situe dans le roman et puis de quoi il s'agit ? Enfin, pourquoi tu as choisi en fait ce passage ?
Alors, moi, j'ai choisi de te lire un extrait qui est vraiment en plein milieu du livre. Et en fait, c'est vraiment justement en plein milieu du périple de mon père entre le Vietnam et la France. C'est un chapitre en fait qui raconte sa découverte de la vie en camp de réfugiés. C'est le premier camp de réfugiés dans lequel il arrive. Du coup, ça doit être à peu près 2 ou 3 semaines après être parti de chez lui. Et en fait, ça raconte plus ou moins la désillusion au moment où il arrive et qu'il découvre du coup ce nouveau monde, sachant que mon père c'est un citadin qu'il a grandi toute sa vie. À Phnom Penh, puis à Saigon, donc c'est vraiment deux grosses villes, et que là, ça se passe, du coup, dans la jungle entre le Cambodge et la Thaïlande. Voilà, et du coup, j'ai choisi de vous lire un passage qui est vraiment un passage du roman, qui n'est pas un passage en italique dans lequel j'interviens. Alors, chaque chapitre est précédé, en fait, de la localisation et de la date. Donc ici, ça c'est Northwest 9 Refugee Camp 042 dans la province de Sakeo en Thaïlande et ça se passe en avril 1980. En descendant de la Jeep, Lim a la sensation de ne pas être au bon endroit. Il n'y a pas de maison, ni même de cabane, seulement des toits en bambou couverts de paille, de bâches en plastique et de feuilles de bananier. Au milieu de la jungle, des milliers d'individus aux yeux jaunis par la maladie déambulent sans but dans la boue. Ils sont maigres, sales et traumatisés. Les journalistes venus enquêter parlent d'un peuple clochardisé, oublié du reste du monde, abandonné. Le camp NW9, pour Northwest 9, a vu le jour quelques semaines plus tôt, après la découverte par des humanitaires de la Croix-Rouge internationale des atrocités commises par les paramilitaires Khmer, ceux-là même qui viennent d'amener la famille au camp. Sur les réfugiés vietnamiens dispersés le long de la frontière. Des viols répétés, des tortures, des exécutions, des passages à tabac. À leur arrivée, les humanitaires se sont vus implorer par les réfugiés. Traités en prisonniers, ces derniers vivaient sous la menace d'un renvoi de l'autre côté de la frontière, leur plus grande peur. Dans le camp, la Croix-Rouge protège les réfugiés passés par les chemins de terre, des milices cambodgiennes et des conflits armés. Mais les moyens manquent cruellement. La gestion est confiée à la Thaïlande, seule rescapée du communisme dans la région, dont les autorités traînent les pieds. Lim pensait arriver dans un bel appartement, mais se retrouve plus démuni que jamais. Le voilà dans un village bricolé à la hâte, sans sanitaire, sans mur, sans électricité ni eau courante. Les premiers jours, il n'arrive pas à se faire une raison. Il pensait qu'au moins sa famille serait réunie, mais Youssouf n'est même pas là. Il était transféré dans un autre camp de réfugiés, à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. « Tu connais le nom de ce camp ? C'est loin ? On peut y aller ?» demande Lim à un ancien voisin qui l'a retrouvé. « Si je le savais, j'y serais. On y serait tous, » répond le voisin blasé. Les cheveux des plus jeunes ont été rasés pour éviter la propagation de poux. En regardant la foule, Lim ne peut plus faire la différence entre les petits garçons et les jeunes femmes. Les mauvaises conditions d'hygiène et l'humidité font des ravages. Les corps sont tachés de champignons et nervurés par la gale. Après une semaine seulement, celui de Lim se couvre à son tour de mycoses en tout genre et de piqûres d'insectes invisibles à l'œil nu. Sa peau est parsemée de taches roses et marrons, ça le démange à s'en taper la tête contre un mur, mais il n'y en a pas. Il gratte, et très vite ses griffures s'infectent, se couvrent de pus jaunâtre et forment des croûtes malodorantes. Il essaye toutes sortes de décoctions naturelles à base de plantes ramassées au bord de la forêt par sa sœur, en baume, en lotion, en infusion, tout aussi inefficaces les unes que les autres. Lim connaît la solution à son problème. Des médicaments et une bonne douche, avec du savon. Mais les responsables du camp distribuent 5 litres d'eau potable par jour, et par personne, ce qui est bien trop peu pour boire, cuisiner et se laver. Avec une quantité si réduite, il faut avoir le sens des priorités.
Merci Émilie. Merci pour cette lecture. Donc je le rappelle, le roman s'appelle « Des rêves d'or et d'acier ». Il est publié chez Hors d'Atteinte et donc disponible, bien sûr, dans toutes les librairies. Et on vous le conseille si vous ne l'aviez pas encore compris. On va passer maintenant à la deuxième partie du podcast où on va plutôt parler de lecture et d'amour de la lecture et du rapport au livre, tes habitudes de lectrice. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, qu'est-ce que tu lis en ce moment ou qu'est-ce que tu viens de lire, de quoi ça parle et pourquoi tu as choisi de lire ce livre en particulier ?
Ces derniers mois, j'ai peu lu, mais j'ai deux livres. j'ai deux livres sur lesquels je reviens en fait. Je me balade entre les deux. Le premier, c'est Vivre à ta lumière d'Abdel Attaya, qui parle de sa mère. Et c'est vraiment un livre que je trouve magnifique. Et en fait, je pense que j'arrête de lire parce que j'ai pas envie de le finir en fait.
Pas envie de faire durer.
Voilà, c'est ça. Et j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Et je le trouve magnifique, et je le trouve magnifique aussi parce qu'encore une fois, en fait, je suis monothème. Hein. Moi, je suis vraiment dans. On parle des darons.
On va jusqu'au bout.
on va jusqu'au bout. Je les ai tous faits. Et je trouve ça formidable la façon dont il parle de sa maman, qui est en fait pas pudique du tout. Il la montre comme lui, il la voyait avec ses yeux, et il essaye pas d'en faire. Il essaye pas d'en faire une madone qu'elle est pas, quoi. Ou alors c'est un autre type de madone, et je trouve ça formidable, et c'est très beau, et ce qu'il décrit d'elle, c'est magnifique aussi. Et ouais, ce livre, il finit pas de m'émouvoir, vraiment. Et d'ailleurs, je lisais plus trop d'hommes, j'avais décidé d'arrêter de lire des hommes pendant longtemps.
Justement, on va parler de ça, de ce qu'on lit, ce qu'on choisit de lire ou pas.
Alors, je lisais plus du tout d'hommes, mais pendant vraiment très longtemps. Et j'ai décidé de relire des hommes, mais uniquement des hommes racisés. Et j'ai fait une exception, c'était pour Nicolas, Mathieu, leurs enfants après eux, parce qu'on me l'avait conseillé et parce qu'en fait, ça se passe chez moi en Lorraine. En vrai, c'était vraiment, on va dire, c'était pour parler à l'autre partie de mon ADN, le côté lorrain, du côté de ma maman. Mais vraiment, en fait, c'est l'endroit où j'ai grandi. Mais en dehors de ça, du coup, je lisais plus du tout d'hommes blancs. Et en fait, j'ai lu Abdel Attaya juste après avoir lu Yasmina Kadra. C'était Ce que le jour doit à la nuit, qui m'avait beaucoup ému aussi. Et c'est Yasmina Kadra qui m'a donné l'envie de... Enfin, qui m'a dit, OK, tu peux t'accorder de temps en temps de lire des hommes.
En les choisissant bien.
Oui, en les choisissant bien. Et s'ils sont pas hétéros, c'est mieux aussi.
Voilà, exactement. Quel a été justement ton rapport au livre, à la lecture quand tu étais enfant? Est-ce que tu lisais beaucoup enfant? Est-ce que c'est venu plus tard? Et puis, comment ça se passait aussi avec tes parents? Alors, encore une fois, sans faire de généralité, mais on sait très bien que quand on est issu d'un milieu populaire, prolétaire, l'accès à la culture et aux livres est peut-être moins facile. C'est pas une priorité, c'est pas toujours une priorité pour les parents. Mais est-ce que eux te ramenaient des livres ou t'amenaient à la bibliothèque?
Je viens d'une famille effectivement où la lecture est pas du tout centrale. Mais j'ai souvent vu ma mère quand même bouquiner un peu. Pas grand chose, hein, mais je pense qu'elle lisait un ou deux romans par an. Et surtout avec l'école, en fait, on allait à la bibliothèque chaque semaine. Et chaque semaine, j'empruntais des livres et j'ai emprunté des livres pour les lire à ma petite sœur avant. Donc ça a commencé comme ça. Et très vite, en fait, j'ai découvert, c'était les lectures d'enfants, je sais même plus, quoi, les souris noires, les choses comme ça, quoi. Et le petit Nicolas que ma mère m'avait fait découvrir et que j'avais adoré quand j'étais gamine. Et puis très vite, c'est des histoires qui étaient très réalistes après ça. Je pense que mon adolescence, j'ai lu les classiques des ados, hein, L'herbe bleue, les trucs comme ça, un peu glauques, qui plaisent bien quand on est ado. Et ensuite, très vite, en fait, c'est devenu quelque chose qui faisait partie de ma vie. J'ai lu tous les Dépentes qui étaient disponibles à l'époque, avant mes 18 ans, je pense, quand j'étais au lycée. Et j'adorais Dépentes. Enfin, c'était une sorte d'obsession. Du coup, j'ai tout lu.
Même ça t'a fasciné.
Ouais, vraiment, complètement. Complètement. Et j'ai redécouvert plus tard, et j'étais toujours aussi d'accord avec ce qu'elle écrivait. Mais elle écrivait aussi des très beaux romans, en fait, et déjà à l'époque. Il n'y a pas que Vernon Subutex, loin de là. Et en fait, la lecture est restée dans ma vie, quoi. Mais effectivement, dans ma famille, c'est pas vraiment... dans ma famille, la télé est toujours allumée. Et c'est plutôt ça, en fait, qui est central. C'est pas vraiment la lecture. Mais je m'enfermais dans ma chambre et j'ai découvert, comme ça, vers 15 ans, ce moment où, en fait, tu commences un livre et c'est l'heure d'aller dormir. T'es fatiguée, tes yeux se ferment, mais tu veux savoir
pas,
ce qui arrive.
Tu veux pas fermer.
Voilà. Et c'est un truc qui est resté.
Est-ce que, du coup, cette habitude-là t'a valu des remarques désobligeantes ou un peu bizarres? J'en comprenais pas qu'une fille d'immigrée... puisse aimer lire ou pas du tout, ça t'est pas, enfin voilà, ça t'a pas.
Non, j'étais un peu, mais moi j'étais un peu la meuf chelou en fait au lycée, donc.
Donc du coup il y avait déjà des remarques.
Du coup ça va. Non, mais j'étais la petite punk, donc j'avais décidé. En fait, je pense qu'il y a aussi, pareil en fait, dans une volonté de rupture avec mon milieu d'origine, comme mon père me disait toujours non mais nous on n'est pas des ouvriers et tout machin. En fait je me refusais même d'être qui j'étais, je pense quelque part. Et pour surtout pas correspondre aux clichés, je me suis dit je vais me mettre dans le punk, je vais être un peu la gothique qui lit des livres d'Amélie Nothon à la récré quoi de temps en temps, en fumant des clopes et en me maquillant trop. Et du coup non, j'étais la meuf chelou de toute façon, donc c'était pas très grave. Mais ça m'a apporté tellement de choses en fait, tellement de poésie en fait. Aussi, que j'ai l'impression qu'il manquait un peu dans notre monde. Et je trouvais ça dégueulasse, quelque part, en fait, que ça soit un truc d'intello de lire des livres.
Ouais.
J'essayais un peu de...
Pourquoi c'est pas pour nous, en fait?
Il n'y a aucune raison que ça soit pas pour nous. Et on avait un CDI qui était très bien fourni, donc pourquoi pas.
Est-ce que tu... Enfin, à quel moment, plutôt, tu as commencé à prêter attention à la représentation dans les livres, que ce soit les auteurs ou les personnages, les histoires? C'est vrai qu'à chaque fois que je présente le podcast, je dis le podcast qui parle littérature du point de vue des racisés. Tu as utilisé ce mot tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui était, puisque du coup ta maman est française et ton père est asiatique, est-ce que c'est quelque chose qui était prégnant chez toi quand tu étais plus jeune ou c'est venu peut-être un peu plus tard?
Je pense que c'est venu bien plus tard même en fait. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que... J'aimais pas trop l'idée d'être juste une fille d'immigrée et d'ouvrier. Et en fait, je pense que pendant longtemps, j'avais même pas la sensation d'être vraiment racisée. C'était comme si c'était quelque chose de la maison. Mm-hmm. Et dehors, c'était pas moi. Et les milieux punks sont très blancs aussi, surtout en province.
Oui, j'imagine, ouais.
Et par ailleurs, les personnes racisées comprennent pas en fait qu'on puisse être dans un délire comme ça. Mm-hmm. À ce moment-là, quand on est gosse, on est un peu fermé d'esprit. Et j'ai l'impression que j'étais seule dans mon délire. Et c'est arrivé beaucoup plus tard le fait de se rendre compte que c'est important bah, déjà d'assumer qui j'étais, d'en être fière même, d'être fière de mes origines, d'être aussi ben, quelque part fière d'être musulmane, parce que c'est quelque chose aussi que je m'étais un peu refusée pendant longtemps, et du coup aussi de me rendre compte ben qu'il fallait qu'il y ait des gens comme nous aussi qui soient visibles quoi. Et à partir du moment où j'ai plus honte d'être qui j'étais, j'avais plutôt soif en fait d'être d'avoir d'autres personnes racisées qui sont vues. Je pense justement que ça a été un peu un process inversé, c'est-à-dire que si j'avais eu des personnes créatives, racisées, visibles autour de moi, j'aurais peut-être pas cru pendant toutes ces années que j'étais une babtou, en fait.
Ouais, bah ouais. Bah, c'est le fait d'être isolée, d'être un peu la seule. Ça. Ouais. Et du coup, c'est passé par quelle recherche littéraire et quel auteur que tu as pu découvrir, enfin, pas quelle difficulté aussi peut-être de découvrir certains auteurs, certains romans.
Oui, je sais pas, c'est un process qui s'est fait un peu naturellement, je pense, qui s'est fait un peu naturellement aussi au fur et à mesure que je m'intéressais aux questions de transmission. Mmh. Et je pense que un des premiers livres qui m'est tombé entre les mains au moment où j'ai vraiment voulu commencer à écrire sur nos familles et sur la transmission, ça a été L'art de perdre d'Alice Zeniter. Mmh. Qui m'a bouleversée. Je me suis dit, c'est un truc comme ça que je veux faire, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Sauf que elle raconte, c'est de la fiction, ce qu'elle raconte. Moi, en fait, j'ai la vraie histoire. Elle existe, voilà. Cette histoire. Et je suis bête de pas me l'approprier, quoi. Donc, ouais, je pense que ça a été très clair qu'il fallait mettre en avant les histoires des nôtres à ce moment-là.
Je suis tout à fait d'accord. Tu parlais tout à l'heure justement du fait que tu lisais moins d'hommes et que tu faisais une exception quand ils étaient racisés. Comment se passent tes choix de lecture en fait ? Est-ce que tu bannis tout ce qui est masculin, tout ce qui est blanc ? Je plaisante, mais presque.
Mais un peu.
J'imagine que quand, en fait, c'est comme ça aussi pour moi. Une fois que tu commences à creuser, à te dire, je veux découvrir les auteurs de telle région, et puis je vais favoriser les femmes. Du coup, ça en appelle d'autres, et de fait, tu t'intéresses un peu moins à d'autres styles d'auteurs. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé pour toi ?
Mais j'ai l'impression, moi, que les livres me tombent dans les mains, en fait. J'ai pas vraiment... C'est eux qui me choisissent, c'est pas moi qui les choisis. Non, plus sérieusement, par exemple, celui que je lis en ce moment, du coup, c'est « Comme nous existons » de Kauthar Archi, qui m'a été offert par une très bonne amie qui m'a dit « Il faut que tu le lises, il est formidable !» Et il est formidable. Et je regrette pas du tout. Mais c'est souvent comme ça que ça arrive, en fait. Ça me tombe un peu dessus. Yasmina Kadra, par exemple, c'est ma belle-mère qui l'adore. J'ai souvent entendu en parler et je me suis dit, moi je l'ai jamais lu et je sais pas pourquoi, alors que c'est censé être un écrivain formidable. Et voilà, c'est juste, ça me tombe dans les mains. Ça arrive tout seul.
Le bon entourage. Il faut le bon entourage pour avoir les bons romans. C'est ça. Du coup, ma question suivante, c'était comment tu fais pour découvrir les nouveaux auteurs, mais je pense que l'entourage sert à ça. Merci aux amis et à la famille. Est-ce que tu penses que ton envie d'écrire la fiction, même si encore une fois, ce premier roman n'en est pas tout à fait, mais en tout cas, il y avait les formes que l'on imagine de la fiction, est-ce qu'elle a été nourrie justement par toutes ces lectures et ce goût de la lecture sans avoir lu tous ces romans, qu'ils soient de Virginie Despentes ou d'autres, et tout ce que tu lis aujourd'hui, tu ne serais peut-être pas lancée dans l'écriture ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, très honnêtement, parce que... c'est tellement linéaire pour moi, en fait, tout ça, c'est arrivé assez naturellement. Mmh. Comme je te disais au tout début, moi, j'ai toujours su que j'allais écrire un jour un roman, qu'il soit publié ou pas. Hein. J'étais juste persuadée qu'un jour, j'allais écrire un roman. Et c'est quelque chose qui me paraissait naturel, mais aussi parce que j'adore écrire, en fait. J'adore raconter des histoires. Et c'était plus simple de raconter des histoires qui existent déjà, même si on met les formes derrière. Et je pense que c'est un autre défi, là, par exemple, d'écrire une fiction, mais un truc vraiment fictionnel de A à Z.
Est-ce que c'est pas comme... la manière dont tu le décris, et je pense que c'est un truc qui est dans un coin de ma tête aussi, est-ce que le fait d'écrire une histoire qui existe déjà, c'est pas comme si tu plongeais dans la piscine avec des bouées et que là, d'un coup, il faut les retirer, il faut vraiment aller nager dans le grand bain.
C'est ça, tu te débrouilles de A à Z, quoi. Genre,
c'est toi.
Il n'y a plus personne qui te tient la main, il n'y a plus de chemin, tu marches dans la forêt et tu trouveras le chemin toute seule, quoi. Il n'y a plus de sentier. Mais c'est hyper excitant, hein, ouais, c'est comme idée, j'ai trop envie de le faire. Mais j'ai pas le temps, mais ça me dit grave. Mais je pense que ça a toujours été effectivement une bouée de se dire qu'il y avait une part de réalité. Et le fait d'avoir une trame historique, en fait, c'est aussi un moyen de se raccrocher, je pense.
Ouais, j'imagine. Mmh. Comment tu choisis les lectures que tu enchaînes, enfin, et en gros, est-ce que chez toi, tu as une étagère de livres à lire, voire une bibliothèque entière, quand c'est mon cas, qui t'attendent, et du coup, tu les prends un par un, chronologiquement, si t'es un peu maniaque ou pas du tout? Ou est-ce que bah, tu lis, et puis une fois que t'as plus rien, t'en empruntes, ou tu vas en acheter, et ça vient un peu comme ça? Est-ce que t'as une stratégie de lecture, en fait?
Je crois que j'ai 15 livres qui attendent d'être lus.
Petite joueuse.
En fait, je les achète quand ils me font envie, et je me dis... je me dis c'est le prochain, et en fait c'est jamais le prochain, parce que bah, y en a tellement d'autres qui étaient déjà les prochains avant que ça attend. Mais oui, probablement petite joueuse à côté de toi.
Fiante.
mais en fait ce que je fais, c'est que dès que je sais que je vais avoir un moment, par exemple là pour Kotar Archi, je savais que je prenais l'avion toute seule, et ben là je sais que je vais lire un roman. Entre le temps du RER et le temps de l'avion, clairement, il y a le temps. Et quand je pars en vacances, j'en prends 4. Si je pars une semaine et demie, même si j'en lis que un ou deux, je prends du rab.
Clairement, même un, je finis pas.
Mais oui, voilà.
Et du coup, est-ce que tu as un rituel de lecture, là? Tu disais, effectivement, dès que tu as un moment de libre, t'en profites. Est-ce que... alors là, j'imagine qu'avec le bébé à venir, ça va être compliqué, mais est-ce que sinon, chez toi, t'as un petit lieu, un petit coin, un petit fauteuil spécial lecture, ton café, machin, ou finalement, tu lis quand tu peux, là où tu peux?
Ouais, c'est plutôt ça. Je suis un peu... c'est un peu anarchique, cette façon de lire, mais je préfère lire en extérieur, bizarrement.
Ouais, moi aussi. J'ai du mal à lire chez moi.
Ouais, même quand il y a du bruit et tout autour, c'est encore mieux.
Ça me rassure, parce que je trouvais vraiment anormal par rapport à d'autres, mais merci.
Mais non, mais parce qu'en fait, si un livre est vraiment bon, tu te plonges dedans, alors que s'il est pas si ouf, et ben en fait, t'es capté par ce qui se passe
t'as
autour.
T'as la distraction, ouais, c'est ça.
Voilà. Du coup, non, je suis plutôt une lectrice d'extérieur. Après, encore une fois, maintenant, je lis quand j'ai un peu le temps, quoi. Donc là, la plupart du temps, c'est debout dans le métro et c'est tout, quoi.
T'arrives à lire debout dans le métro?
Ouais, je galère.
C'est ma limite.
Ouais, non,
il faut
je galère.
Une place assise pour lire.
Et en plus, j'ai peur de louper les arrêts. Enfin, c'est mais n'importe voilà. quoi.
C'est ça. pour la dernière petite question, alors c'est une question qui paraît anodine, mais qui finalement est hyper compliquée à chaque fois pour les gens, et en vrai, je sais qu'elle le serait pour moi, mais c'est pour ça, c'est moi qui pose la question. Quelle est ou quelles sont, on va laisser la possibilité du pluriel, tes livres de prédilection? Tu sais, ceux que tu recommandes à tout le monde, dès que tu croises quelqu'un, que tu offres constamment, ceux qui sont hyper importants pour toi.
Comme je l'ai déjà cité, vraiment, L'art de perdre d'Alice Zénitaire, je crois que je l'ai offert genre 5 fois. Il y a 5 personnes différentes qui l'ont eu.
Je l'ai offert 2-3 fois avant de l'acheter pour moi, et il est sur
c'est
la fameuse bibliothèque qui attend.
Donc, voilà. Il fallait le lire, il est incroyable. Et un autre que j'adore aussi, et d'ailleurs... on ne fait que de me le piquer autour de moi. C'est « Un homme, ça ne pleure pas » de Faye Zagan. Mmh. Je l'adore.
Bah oui.
Il est tellement doux, ce livre. C'est un de mes favoris. Après, par contre, je n'ai pas d'autres réponses à donner parce que c'est en vrac, quoi. Mmh. J'ai adoré lire Ocean Vuong aussi, du coup, qui est un auteur américain-vietnamien qui écrit vraiment des choses magnifiques, qui fait beaucoup de poésie. Et très bizarrement, à l'époque où je lisais encore des mecs, il y a un livre que j'adore lire, mais c'est vraiment du divertissement, c'est du film, quoi. D'ailleurs, c'est devenu une série, c'est Tokyo Vice.
C'est
Jake Adelstein.
Okay. Comment s'appelle l'auteur?
Jake Adelstein,
okay.
Qui est du coup un auteur et journaliste américain qui travaille au Japon comme journaliste et qui raconte un peu... Enfin, là, on parle de mafia, hein, de yakuza et tout ça. C'est hyper divertissant et du coup, c'est très chouette. Et maintenant, il y a une série sur Canal.
C'est ça, j'ai vu passer des,
voilà.
des trucs. Ok, on note.
Voilà.
Très bien. Finalement, ta réponse m'amène une dernière question, mais tu parlais de livres qu'on t'emprunte et qu'on ne te rend jamais. Moi, c'est le running gag de ce truc. Les gens à qui j'ai prêté des livres, rendez-les-moi. J'en ai marre. Mais du coup, comment ça se passe, toi? Est-ce que tu... emprunte, est-ce que tu prêtes, est-ce que tu rends les livres, est-ce que tu les gardes?
Non, souvent, en fait, quand je prête des livres, je sais que je les reverrai pas. Et en fait,
tu acceptes,
je l'accepte. Je pensais que je leur file des poches, les gens.
Ouais, voilà.
Je l'accepte. J'ai toujours une copine qui me dit qu'elle va venir me rendre des livres. Je sais que c'est pas vrai. Et
rendez les livres, les gens, vraiment.
Et maintenant, mais je les, en vrai, je les rachète. Quand, quand je les aime vraiment, je les rachète. Et puis, tant pis. En fait, c'est comme si j'avais offert le livre à la personne, quoi. Je me dis quelque part.
Oh, c'est bien d'être préparé avant. Ouais. Tu l'as vraiment.
Par contre, j'ai une copine qui fait des fiches de bibliothèque à ses potes. Donc, à chaque fois qu'elle prête un livre.
J'aime beaucoup ton amie. Je pense elle que rem... je vais faire pareil.
Elle remplit des fiches et elle sait qui a quoi, en fait, tout le temps. Et ça,
parce que
c'est
moi,
ça qu'il faut faire.
J'ai des livres que je n'ai plus et je ne sais pas à qui je les ai prêtés.
Et ben voilà.
J'ai un seum incroyable. Vraiment, je le répète. Je m'en fous, je me répète. À chaque fois, on me dit t'abuses. Les personnes à qui j'ai prêté Sur la route de Jack Kerouac en français et en anglais. En anglais. Et vous ne me les avez jamais rendus. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais vraiment, manifestez-vous. Vraiment, si vous me les rendez, je pardonne. Je ferai rien de plus, mais rendez-les-moi.
Le message est passé, je crois.
À chaque fois, j'essaye de le passer. Ça va, genre, jusqu'à la fin de ma vie, je le dirai si on ne le rend pas. Bref, cette parenthèse étant fermée. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir participé à ce podcast. Ça fait un petit moment, ça faisait un petit moment que je voulais que tu participes. Donc, j'en suis ravie. On rappelle le titre du roman Des rêves d'or et d'acier chez Hors d'atteinte. Et puis bientôt, peut-être un deuxième roman. On attend ça avec impatience.
Inch'Allah.
Inch'Allah, exactement. Si vous avez aimé le podcast, mettez des bonnes notes là où vous pouvez. Franchement, je ne sais même plus sur quelle plateforme on met des étoiles, des notes, etc. Mais faites-le, parlez-en autour de vous. Si vous n'aimez pas, refermez le truc et n'en parlez pas. Et puis on se retrouve à très bientôt avec un autre auteur ou une autre autrice. Voilà, merci beaucoup.
Merci.